France Musique. France Musique, les grands entretiens, François Bonnet.
François Bell, je suis né en 1932 et j'ai essayé d'être un compositeur de musique acousmatique.
François Bell, bonjour.
Bonjour François.
Hier, nous avons amorcé votre chemin musical à travers les premiers apprentissages, les apprentissages balbutiants, je dirais. Aujourd'hui, nous allons vous suivre atteindre l'âge d'homme, comme l'écrivait Michel Léris. Et la première transition qui marque peut-être le début de l'âge adulte, ce serait votre arrivée à Paris. Dans quelles circonstances montez-vous, comme on dit, à Paris?
Oui, m'extraire de Bordeaux, parce que... Il y a ça, c'est comme à cette époque-là, monter à Paris, c'était un peu comme aller dans la Lune. Donc il fallait se fabriquer un combustible et sortir de la gravitation terrestre. Donc il fallait une belle énergie et donc un but, un désir ardent d'atteindre un but, une Lune. Et quel était le combustible qui m'a donné cette énergie? C'est pas tant la musique, à ce moment-là, mais la musique, bien sûr, pour une bonne part, mais un ardent désir de faire le contact avec tout un milieu de la pensée. Dans l'introduction, les portes m'ont été ouvertes par Jean Cocteau. Bon, je lisais beaucoup, avec un ami qui s'appelle Louis Mesuré. Nous étions des grands lecteurs. Et nous adorions discuter de nos lectures. Et bon, un jour, nous avions fait le tour des émotions possibles à Bordeaux. Et avec mon camarade, on s'est dit, bon, c'est pas difficile. Hein, si on veut pouvoir continuer et se développer, il n'y a qu'un endroit. Il faut plier bagages, il faut quitter ici. On a fait le tour du problème. C'est terminé. On met nos trois affaires dans nos valises respectives. Et avec une semaine de vivres... D'avance, nous montons à Paris. Je me rappelle toujours de mon arrivée absolument sans aucune crainte du futur, rue Royer-Collard à côté du Luxembourg, sortant de la gare d'Austerlitz avec ma petite valise où j'avais les trois meilleurs livres et les huit meilleurs disques et puis quelques vêtements en plein mois d'août, en train d'arriver à Paris confiant alors que nous avions juste de quoi payer une semaine d'hôtel. Et qui a passé très vite, bien sûr, une semaine ça va vite. Et l'hôtelier nous disant au bout de 8 jours qu'il fallait payer la semaine suivante, ce à quoi nous n'avions pas du tout pensé, et qui nous explique qu'il ne pourrait pas nous pourrions pas garder cette chambre, mais comme on n'avait pas de quoi la payer, ben il nous retenait les valises en tout cas, et que voilà. Donc nous étions sur le pavé. Les valises en moins qui étaient restées en otage pour payer ce qui restait à payer. Voilà mon arrivée brillante à Paris. C'était l'été, il faisait beau, les bars étaient accueillants. Il y avait je connaissais toutes les boîtes du Saint-Germain qui fermaient pas, c'est-à-dire qui faisaient les 3-8. Et c'était l'époque du Saint-Germain-des-Prés. Hein, c'était les gens étaient très accueillants. On pouvait dormir chez des copains. Hein, on trouvait toujours quelqu'un qui vous offrait une frite à manger. Bon, bref, les semaines passent, etc. Et arrive l'automne. Voilà mes débuts à Paris. Voilà. De temps en temps, alors un petit détail amusant. De temps en temps, la musique refaisait surface. J'avais, je ne sais par quel moyen, appris qu'il existait à Salgavo la possibilité de louer un studio où il y avait un piano. Alors je vais quelquefois, on me prêtait de l'argent, on me donnait de l'argent, je vais louer un studio. Je me souviens une fois, j'ai loué le studio pour une heure, un vendredi, la dernière heure, et je ne suis pas parti. Tout s'est fermé, et j'ai passé la nuit dans le studio, une nuit absolument délicieuse. Il y avait deux grands pianos, c'était un studio de répétition à deux pianos. Je n'avais rien à jouer, je n'avais aucune connaissance, mais je jouais avec mes avant-bras. J'écoutais les sons du piano. C'était des sons absolument fantastiques, parce qu'ils étaient d'une amplitude, d'une qualité, d'une précision. Je comparais le son d'un des pianos à l'autre. Bref, j'ai passé une nuit de rêve dans ce studio, dont je me suis sauvé le matin vers 10h en me disant que je risquais d'être pris. Et donc, il valait mieux que je ne reste pas plus longtemps. Mais c'est un des meilleurs souvenirs de mon existence.
Alors vous êtes, on l'a dit, absorbé par la vie parisienne, mais à un moment, il faut un petit peu...
Un jour, il faut revenir sur Terre, oui.
Comment s'est passé votre retour sur Terre?
Oui, ouais, c'est une façon vraiment anecdotique et très étrange que je vais essayer de résumer en quelques mots. Un jour, j'ai mal aux dents. J'avais un excellent ami qui me donnait des très bons conseils. Et dès que j'avais un ennui, c'est à lui que je m'adressais. Il m'a toujours, formidable, il m'a trouvé un appartement, il m'a trouvé... Bref. Il me dit, tu as mal aux dents, il faut aller chez le dentiste. C'était une idée qui ne me serait pas venue tout seul, parce que je savais même pas qu'il existait des dentistes. Donc je me rends chez un dentiste qui m'examine et qui me dit, voilà, ça sera ça, ça coûtera tant. Et alors, bien sûr, je suis effondré, je me jette sur, je reviens revoir mon ami, il me dit, oui, mais ça coûte tant. Ben oui, mais il me dit, oui, ben, il faut que tu travailles. Ah, et il me dit, qu'est-ce que tu as comme diplôme? Ben, je dis, j'ai le bac, et puis j'ai une année de licence. Bon, c'est très simple. Tu vas rue de la Madeleine, et là, on cherche du travail comme instituteur, tu te pointes et tu es sorti d'affaires. Effectivement, lundi matin, je vais, et on me reçoit, on me donne une adresse sur un bout de papier, je m'y rends le lundi à 14h, et là, je vais chez le directeur, qui me dit « Ah, enfin, un suppléant qui m'arrive. Monsieur, on vous attend depuis longtemps. Moi, je ne savais pas que j'étais attendu quelque part depuis longtemps. C'était une grande nouvelle pour moi. Je l'ai pris comme un heureux événement. Et je me souviendrai toujours de ce parcours que nous avons fait entre son bureau et le lieu où il se rendait, qui était une classe. Il y avait un grand couloir, on entendait énormément de bruit d'enfants. Et effectivement, au fond du couloir, une porte, on ouvre, il y avait toute une flopée de gosses qui faisaient la nouba sur les tables. Le directeur crée un grand silence. Je me souviens de tous ces enfants abasourdis et ahuris qui me regardent. J'entends ce directeur dire « Mes enfants, voici votre maître ». Et j'entends un claquement, la porte qui se referme et il est parti. Et je me trouve devant voilà les fauves, abasourdis, aussi abasourdis qu'eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je deviens instituteur. En même temps, je rencontre une épouse, je me marie. Une épouse qui avait déjà un enfant, je lui fais un deuxième enfant et je me trouve, de fil en aiguille, installé à Paris. Moi qui ne savais rien faire et qui venais d'une autre planète, instituteur, marié, père de deux enfants. Comme ça.
Donc voilà, cette vie nouvelle d'instituteur ne vous a pas fait dévier de votre objectif musical. Et au contraire, vous avez pu concilier pendant un temps ce travail alimentaire, mais qui vous passionnait, avec un apprentissage.
Mais c'est-à-dire, ça m'a donné le moyen d'envisager un apprentissage.
Alors, vous allez au conservatoire. Comment se passe cette rencontre avec Olivier Messiaen, en l'occurrence?
Avant d'aller au conservatoire, je voulais faire de la musique. J'étais toujours dans cette ardeur-là. Comme instituteur, j'ai fait connaissance avec un marionnettiste. Et j'ai dit, je m'explique tout ça, on fait copain. Et il dit, mais il te faudrait de la musique sur tes petites histoires. Je te la fais si tu veux. Pour trouver des instrumentistes, on m'avait conseillé, il m'a dit, tu vas au conservatoire. Et c'est comme ça que, regardant les affiches du conservatoire, je vois cours de composition. Et je m'aperçois que la composition s'apprend, ce que je ne savais pas. Et qu'il y a donc d'autres compositeurs, des jeunes compositeurs. Je vais écouter les résultats du concours. Je me souviens avoir été un des auditeurs des premières œuvres scolaires de Gilbert Ami et de Betsy Jolas, dont j'ai vu les noms imprimés sur la feuille de la rue de Madrid. J'avais jamais vu un autre compositeur. Je regarde de mes grands yeux comment est bâti quelqu'un qui, par la chance, a pu suivre le cursus normal et être compositeur. C'est formidable, c'est possible, c'est pas impossible. Alors voilà comment ça s'est passé. Et puis, de fil en aiguille, je connaissais très bien la musique de Messiaen, je connaissais toutes les musiques. Hein. Donc j'entends parler de Messiaen, j'entends qu'il donne des cours. Tiens, donc je me présente, on me dit il y a un examen. Donc je me pointe à l'examen. Je m'explique un peu, j'ai dit Monsieur Messiaen, en trois mots, mon parcours est tout à fait anormal. Donc, d'abord, je ne sais pas le solfège et je n'ai fait aucune étude de quoi que ce soit. Mais je fais de la musique et j'aimerais continuer d'en faire. Notamment, j'aime beaucoup la musique concrète que j'ai entendue un peu à la radio, etc. Mais pour le moment, je peux encore pas. Il n'y a pas de place. Enfin, on ne peut pas rentrer là. J'ai des tas de choses à apprendre. Alors, il m'accepte comme auditeur. Je me souviendrai toujours, il m'a fait faire une dictée musicale. Il me pose ses mains sur le piano, il me dit quelles sont les notes. Monsieur, je suis bien incapable de vous dire, même la première. Je n'ai pas du tout suivi cet enseignement-là. Et je me rappellerai toujours mes siens en m'expliquant, mais monsieur Bell, vous savez que quand on écrit de la musique, il faut absolument connaître le nom de toutes les notes. Parce que, voyez-vous, si vous écrivez quelque chose et que vous le donnez à un instrumentiste, et s'il ne vous joue pas cette note, il faut que vous puissiez lui faire le reproche. J'écoutais ça, j'étais à la renverse. Je me dis, comment est-ce qu'un musicien peut être assez méchant que si un compositeur écrit une note, on ne lui joue pas la note qu'il a écrite? Je n'en revenais pas. Il m'ouvrait des portes sur la méchanceté humaine. Alors, donc c'est ainsi que, petit à petit, il a compris qu'il avait affaire à un cas très très spécial et qu'il m'a toléré comme auditeur pendant un an.
France Musique, les grands entretiens de François Bell.
Alors, il y a cette classe d'Olivier Messiaen, mais il y a une autre figure qui commence un petit peu à être tapie dans votre histoire, des Bordeaux d'ailleurs. C'est la figure de Pierre Schaeffer, et c'est petit à petit l'homme que vous allez essayer d'atteindre.
Ah oui, Schaeffer, celui-là, j'avais trouvé au marché aux puces son livre « À la recherche des musiques concrètes » dont les pages n'étaient pas découpées et dont j'avais entrevu le ton. Mais assez rapidement, j'avais vu que c'était un livre qui était compliqué, que je ne comprendrais pas et que je me réservais pour plus tard. Il faisait partie des 5 ou 6 livres dans ma valise. Va savoir pourquoi et comment. Hein. Il fallait quand même... Bon, bref, il y avait quelque chose de prédestiné là. Et par contre, je l'ai dit, je m'intéressais à tout ce qui était bizarre et ésotérique. Et j'avais beaucoup entendu parler de Gurdjieff. Et tout d'un coup, dans un ouvrage sur Gurdjieff, quelle était ma surprise, tout d'un coup, je vois un article d'un nommé Pierre Schaeffer sur Gurdjieff. Je m'intéressais beaucoup à l'ésotérisme dans la même direction générale, c'est-à-dire finalement comment être soi-même, comment être attentif, comment faire attention d'une manière très très élaborée à la différence entre ses sensations, ses réflexions, etc. Bon, comment fonctionne finalement la physiologie et la phénoménologie humaine. Et c'est comme ça que, par hasard, je vois une coïncidence très étrange, c'est que ce Schaeffer, qui semble avoir inventé une approche de la musique contemporaine très très originale, est aussi quelqu'un qui a été fasciné par Gurdjieff. Mais il faut que je connaisse cet homme. Il faut que je connaisse cet homme qui semble me ressembler beaucoup. J'ai l'impression qu'il pourrait être mon père. Alors, j'essaye de le voir, et c'est impossible. Entre-temps, m'arrive la fin de mon sursis militaire, et je dois faire mon service militaire. Et donc je pars, mais j'étais marié et j'avais 2 enfants à charge, ça m'évite d'aller en Algérie, c'était la période de la guerre d'Algérie, mais ça me fait faire 18 mois de service en région parisienne. Je lisais, bien sûr, j'étais au courant de tout ce qui se passait, des mondanités, enfin des choses. Bon, je lisais un journal qui s'appelait Art, et j'apprends et je vois là que un festival extraordinaire allait se tenir, l'exposition universelle à Bruxelles. On y annonçait un pavillon Philips construit par un nommé Xenakis pour héberger une œuvre d'un futuriste nommé Edgar Varèse. Je vois aussi qu'un certain Schaeffer va y donner des leçons inaugurales. Je vois un certain nombre de choses qui m'excitent au plus haut point. Je me dis, mais voilà, il y a là un creuset, un résumé exactement de toute la problématique qui me passionne. Je ne comprends rien à tout ça, mais je sais que c'est ça qu'il faut connaître, dont il faut s'approcher.
Mmh.
Mais j'étais militaire. Je prends mon courage à deux mains et je me pose une permission de week-end. Et je décide d'aller à Bruxelles. C'était assez risqué parce que on était en pleine guerre d'Algérie et donc j'étais déserteur. Je risquais un certain nombre de mois de prison si je me faisais prendre. Et je savais que sur les quais de gare, il y avait la police, la PM, la police militaire qui circulait. On reconnaît vite un jeune recrue à la manière dont son crâne est tondu par la tondeuse. Donc, je me déguise, je me mets un grand cache-nez. C'était en mois d'octobre. Et je prends un train de nuit pour Bruxelles. En tout cas, j'échappe à la police et je me trouve à Bruxelles à 5 heures du matin et j'essaye de trouver le chemin de l'exposition universelle qui était en banlieue de Bruxelles. Je connaissais rien, bon, je finis par trouver. Vers 10 heures du matin, je suis sur place dans la salle où un certain Schaeffer donnait sa première conférence. Et je me rappellerai de cette salle obscure en sous-sol. Dans une, je rentre et je m'installe sur un fauteuil. Il n'y avait pas grand monde. On devait peut-être être une maigre douzaine. Il y avait beaucoup plus de places vides que de personnes. Et le moment vient et je vois arriver ce Schaeffer-là que je n'avais jamais vu. Il m'impressionne parce que. Il crachotait, et il avait des larmes qui coulaient parce que il avait une cigarette dont la fumée allait dans sa paupière et ça lui faisait couler des larmes. Et il n'arrivait pas à démarrer ses phrases. Il m'impressionne tellement que tout à coup je m'endors. Évidemment, l'émotion, le train de nuit, etc., beaucoup d'explications. Et je me réveille au moment des claquements de mains, de l'applaudissement de sa première conférence, que j'ai donc entendue à travers mon sommeil, et dont je n'ai pas perçu la moindre signification, mais j'étais là. L'important, pour moi, c'est d'être là. Et donc, je vais sur l'estrade, et je me présente, je dis, voilà, j'aurais beaucoup aimé vous voir. Il me dit, adressez-vous. Et il y avait un jeune éphèbe, un bel ange élégant, qui était à côté de lui, qui s'appelait Luc Ferrari, j'ai su ensuite, qui, du bout des lèvres, prend mes coordonnées, me dit, bon, quand on sera à Paris, faudra me... Bref. Et donc, voilà ma première rencontre avec Schaeffer, assez spéciale. Par contre, je me promène dans l'après-midi et je fais connaissance du pavillon Philips et de cet extraordinaire endroit. J'entends les musiques de Varèse, extraordinaire aussi. Et je reviens prendre mon train rapidement pour réintégrer mon statut de déserteur, donc, et rentré, et voilà, je ne me fais pas prendre, et tout s'est bien passé. Et je reviens de là, la tête complètement remobilisée, en me disant, voilà, ben, le programme est tout tracé, il faut connaître ce Ferrari, il faut connaître mieux ce Varèse, il faut connaître ce Xenakis, il faut connaître Schaeffer, il faut savoir où ils vivent, où est-ce qu'ils agissent, comment ça se passe, etc.
Et ça sera l'enjeu des...
Et ça a été, la suite de mon existence.
Qu'on découvrira demain. Merci François Bell.
Merci François.
C'est sur cet extrait de Concret PH, une œuvre de 1958 que l'on doit à Yanis Xenakis, que cette émission s'achève. Prise de son, Catherine Dereté. Mixage, Claire Levasseur. Attaché d'émission, Flora Sternadel. Réalisation, Lionel Quentin. Rendez-vous demain pour la suite des grands entretiens de François Bell.
À réécouter sur francemusique.fr.